ancêtre yo va content. Les nous va suivre l'exemple, yo t'es tracé depuis dans l'esclavage. Yo va crier
le chemin. Saluer monsieur Saint-Gardien, je crois qu'il nous écoute depuis Washington. Salutations à docteur Thomas Lalim, docteur Joël Desrosiers. La paix saluer Hervé Denis également. À toutes les amis qui écoutent nous du nord au sud, de l'est à l'ouest. Michel-Ange Jean-Basile. L'ami de Louis d'Or, Fontrose.
Côte à côte d'arriver, à nous faire un compito. Dans cette yo t'ai dit ça, dans l'union fait la force, quand ça nous va marcher.
Mais dans la main, quand ça nous va marcher, dans l'esprit d'amour, l'union fait la force. Mais dans la main, quand ça nous va marcher, dans l'esprit d'amour, l'union fait la force. Mais dans la main, quand ça nous va marcher, dans l'esprit d'amour.
Jean-Basile, l'union fait la farce pour certains, mais si nous t'ai fait l'union fait la force, eh bien, nous t'avaler plus loin. Gagné un texte que j'ai reçu, c'est le coin de l'histoire. Parce que notre problème, c'est qu'il y a des Haïtiens qui sont des hypocrites. Ils ont peur de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, c'est un texte de Gérard Pradel. Jean-Bertrand Aristide, l'homme des occupants. Mercredi 15 octobre 2014. Le 15... C'est, ça va loin. Mercredi le 15 octobre 2014, Jean-Bertrand Aristide débarquait à Port-au-Prince dans un avion militaire des États-Unis. Cette date ramène le 20e anniversaire de l'occupation militaire des États-Unis en Haïti, sollicité officiellement par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide en 1994. 20 ans après. Le peuple haïtien attend toujours des excuses de Jean-Bertrand Aristide et de son parti Famille Lavalas pour ce crime odieux contre notre histoire nationale. En autorisant l'occupation, Aristide a commis un acte de trahison. À travers cette décision, l'ancien président hypothéquait la souveraineté nationale d'Haïti, si chèrement acquise par les pères de l'indépendance. Aristide déclara dans un discours à la population que li fait yon ti désordre. Que Dieu nous garde et nous protège. Alors, c'est ça, mes amis. C'est malheureux. Alors, nous croyons que Fok gen moun. Bral meton ti kay pou nou le temps que me rentre avec mon ami Victor Henriquez qui pral passer yon ti bout de temps avec nous là dans quelques petites minutes. On écoute kay. Et pas faute moi non. On écoute kay.
Soleil, l'ange la ligne, d'enfoncer nos fers noirs à toute bouline. Nous perdons la raison. Dans chercher sembler, ça nous paye. Dans payer la guerre, marcher gaillé. Nous perdons direction. Dans cracher sous symbole qui débat nous liberté. Pour nous d'exister. Dans vos mines, dans le paysan, pas si spawn planté. Bah nous mangeons, nous presque pas mon encore. Nous presque pas mon encore. Nous oublions ça que fait naïsien. Nous presque pas mon encore. Nous presque pas mon encore. Nous oublions ça que fait naïsien. N'a pas dit rêve d'où tête en bas. La pipe de crème pays là-bas. Nous sans destination. Dans les vies ou bien en bas. Dans le goût maintenant, mauvais combat. Nous pas indignation. Dans ouvre porte pour tout vieux à dire pour entrer. Fiat une virée l'envers. Dans mettre garde porte gagoté, ça nous possède. Nous perdons pour rêver, nous presque pas mon encore.
Alors, c'est ça, Kay, non pas mon encore, hein. Je l'envoie pour t'entendre. De Radio Haïtienne de Montréal. Salutations à Jean-Ernest, Jacques Millien, Ernest Sanon. Marc Andamour. Dans quelques petites minutes, notre stratège en politique et communication sera avec nous, Victor Henriquez. Alors, c'est quand même une musique que j'adore, parce que le nom gardé, ça a passé actuellement en Haïti. Alors, c'est vraiment difficile. Maintenant, on va parler des élections. Moi, j'ai voté par anticipation, je l'avais dit la semaine dernière. Et maintenant, on va parler des résultats. Alors, il y a eu quand même certaines fraudes, semble-t-il, pour certains candidats. Et c'est le cas d'une enquête sur un des candidats du Parti conservateur du Québec. Alors, et Victor Henriquez, c'est toujours avec grand plaisir qu'on se parle sur les ondes de Secute.
Bonjour Raymond et bonjour à tous les auditeurs de Samedi Midi Inter.
Alors, une élection qui a fait beaucoup de bruit, qui était très controversée, une élection où et M. Legault a augmenté ses députés, même s'il y a quand même des candidates qui n'ont pas été élus contrairement à ce que je pensais. Mais il y a eu quand même beaucoup de bouillaya dans cette élection et ce lundi, mon cher.
Une soirée électorale qui était tout sauf surprenante, mais comme toutes les soirées électorales, nous a quand même amené beaucoup de rebondissements. On a veillé très tard pour connaître les résultats dans Verdun, entre autres. Mais disons que l'élection s'est passé d'une façon un peu comme on l'attendait. Monsieur Legault, sans nécessairement avoir une majorité de voteurs, a une très forte majorité de sièges. Le Parti libéral a réussi à maintenir la tête hors de l'eau, il faut le dire. Madame Anglade a réussi par sa performance, et je pense que c'est exclusivement par sa performance personnelle, à sauver 21 comtés. Cependant, c'est quand même le plus bas taux de vote que le Parti libéral n'ait jamais eu au Québec. Il est à 6 % chez les francophones et il était quatrième dans le vote populaire. C'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Du côté du Parti québécois, on s'est satisfait d'une victoire du chef. Ce que j'aime des soirées électorales, Raymond, c'est que ce soir-là, tout le monde gagne. Même Éric Duhaime, qui n'avait pas de député, était content de sa performance et avait gagné l'élection. Alors, une nouvelle chambre. Beaucoup de femmes en chambre. Et ça, c'est important, Raymond. On a 46 % de femmes qui ont été élues. On aura donc l'Assemblée nationale la plus proche de la parité qu'on ait jamais eue au Québec. Et tous les partis ont beaucoup de femmes. D'ailleurs, au Parti libéral, pour la première fois, le caucus sera majoritairement féminin, puisqu'il y a 13 femmes élues sur 21. Donc, des changements de ton aussi à venir, et on verra comment les partis se comportent maintenant, parce qu'on a passé la semaine à dire qu'on collaborerait. Maintenant, j'ai hâte, comme on dit, Raymond, il faut que les bottines suivent les babines.
Moi, il y a une chose que je répétais à plusieurs fois à l'émission Samedi Midi Inter, c'est pour la première fois qu'il y a autant de minorités visibles et des personnes compétentes parmi les femmes dans une élection provinciale. Et c'est des gens compétents, et je dirais, je peux prendre comme par exemple à Bourassa Sauvé.
Ben oui.
Je peux prendre dans le cas d'Émile Hill. Moi, je pensais qu'elle était élue. Et puis, après, on disait que non, ça n'a pas été. Je l'ai vu quand je l'ai vu à côté du premier ministre. Et je pensais que c'était une candidate tant élue. Mais malheureusement, semble-t-il qu'il y a eu des problèmes. Mais il y a une chose qu'il faut souligner. Québec solidaire faisait tout pour éliminer la majorité de Dominique Anglade pour être remplacé comme l'opposition officielle. Québec solidaire a agacé tous les candidats de la région de Montréal pour embêter Dominique Anglade. Et même Franz Benjamin, que je félicite, qui a remporté quand même sa victoire.
Ça a été plus chaud que jamais. Et c'est là où est-ce que je te dirais, Raymond, qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles pour les libéraux. D'ailleurs, je félicite l'élection de Madoua Nkakadet dans Bourassa. Tu l'as dit, c'est important, une diversité, une représentativité comme celle-là, on n'a jamais vu. Je félicite Charlie Desrimonds, qui a été élu également. Lionel Carman, qui a été réélu pour un deuxième mandat. Monsieur Boisy de Québec solidaire. Il y a une diversité à l'Assemblée nationale que l'on n'avait pas eue avant, et tu l'as souligné, Raymond, à plusieurs reprises, et elle est importante. Mais tu as raison, Québec solidaire a joué dans les dalles du Parti libéral à Montréal, à peu près dans tous les comtés. Même France, que l'on félicite aussi, a eu peut-être plus de difficultés qu'à l'habitude contre Mme Bellinga. Ce sera à surveiller pour les libéraux, ce glissement de Montréal, qui est souvent, tu le remarqueras, Raymond, aux mêmes endroits où est-ce qu'il y a eu un glissement vers Projet Montréal au municipal. Donc, on sait que la machine de projet, la machine de Québec solidaire sont pas mal les mêmes machines, ou du moins très collaboratives l'une avec l'autre. Et c'est sûr que autour du métro, ligne orange, on a vu dans Verdun, ça a glissé pour Québec solidaire, mais Saint-Henri-Sainte-Anne, c'était dans les visées. Également, on était dans le coin de la salle, donc on voulait atteindre ces coins-là. Et Vio, ben, c'est tout le secteur François Perrault qui est maintenant représenté par Projet Montréal. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est intéressant, tu regardes Montréal, tu regardes où est Projet Montréal, puis tu te dis c'est là où est-ce que Québec solidaire va renforcer ses gains. Maintenant, ils ont pas atteint le niveau qu'ils espéraient, beaucoup à cause de la fin de campagne de Dominique Anglade, selon moi, où elle est allée refaire le plein de ses électeurs. Elle a réussi ce pari-là, de solidifier son électorat. Et je pense aussi que les déclarations de Jean Boulet sur l'immigration ont aidé Dominique Anglade à aller chercher son vote, ou au moins à aller sortir son vote, parce que ça donnait une raison aux gens de voter, de dire « OK, ben, on ne peut pas accepter ce genre de mots, donc on va soit aller voter contre le gouvernement parce qu'on pensait peut-être les appuyer, mais finalement non, soit on va juste aller voter parce qu'on a une raison d'y aller. » Et ça, avec un taux de participation à 66%, 67% lors de cette élection-ci, qui est à peu près le même que la dernière fois, ben, ça fait la différence dans des comtés. Alors, moi, je pense que maintenant, on souhaite bonne chance à tous les élus et ça va être intéressant de voir comment l'opposition fonctionne parce que Québec solidaire a eu plus de votes que le Parti libéral. C'est la première fois que ça arrive. Et le Parti libéral a eu la moitié moins de votes que la dernière élection. Et ça, c'est un glissement qui ne peut pas continuer. Sinon, c'est une question de temps avant que le Parti libéral se retrouve comme le Parti québécois en étant marginal.
Et en parlant de Jean Boulet, et il y a le député de Chaumé-des-Laval qui était à un brunch la semaine dernière, dimanche dernier. D'abord, c'est moi qui l'avais présenté, qui avait répondu au premier ministre et à M. Goulet sur la question de la francisation et au sujet des immigrants. Et je crois que cette défaite est contestée par le Parti libéral. Et il y a une chose que j'aimerais souligner avec toi. Et Nadeau Dubois, c'est quand même un gars assez intelligent, très actif, et surtout, il est dans une circonscription qui a été gagné par une grande dame, l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, et qui est toujours active.
Et Françoise David.
Alors, il y a eu deux David à l'Assemblée nationale, une libérale, une de Québec solidaire. Alors, la libérale, elle a décidé de sortir. C'était quand même une circonscription proche de Dominique Anglade. Alors, c'est quand même important de souligner son agressivité, mais finalement, il faut qu'elle négocie avec Dominique Anglade. Et semble-t-il que Dominique Anglade ne veut pas bouger pour reconnaître les deux partis, Québec solidaire et le Parti québécois, qui n'ont pas assez de députés pour être représentés comme opposition. Alors moi, je pense qu'il faudrait qu'elle mette un peu d'eau dans son vin.
Ben, c'est ça qui me chicote dans les derniers temps, dans les derniers jours. Puis je vais attendre de voir ce qui va vraiment se passer, parce que dans les derniers jours, Dominique Anglade, ce qu'elle a répété, c'est qu'elle n'allait pas négocier sur la place publique. Bon, ça donne la perception qu'elle veut pas ouvrir la porte. Il faut comprendre aussi que le budget n'est pas illimité. Si elle ouvre la porte aux deux autres oppositions, il va falloir qu'elle partage l'argent. Il y aura probablement plus d'argent investi, mais il va falloir quand même qu'elle accepte de diminuer son budget de l'opposition officielle. Donc ça peut être un enjeu. Mais en même temps, il faut faire attention parce que Dominique Anglade n'a pas un mandat clair d'opposition officielle. Dominique Anglade a un mandat clair en termes de député, mais ça reste qu'elle est quatrième au vote populaire. Je trouve que si elle refuse, ça passerait un très mauvais message. Et ça irait à l'encontre du message de collaboration qu'on a besoin de la part des élus. Beaucoup de gens parlent de la réforme du mode de scrutin, Raymond. Mais tu sais, on parle très peu de la réforme parlementaire. La façon de fonctionner au Parlement doit évoluer. Elle doit évoluer dans beaucoup de sujets. D'ailleurs, la quantité de femmes au Parlement va être très importante pour les débats à venir, notamment sur la conciliation travail-famille. On doit aussi évoluer en termes de collaboration parlementaire. On doit aussi évoluer en termes de rôle des élus. Mais tout ça ne peut se faire que si tous les partis sont représentés. Me semble qu'on avait réglé ce problème-là la dernière fois. C'est une très mauvaise idée pour Mme Anglade de s'opposer à ça, parce que le premier ministre Legault va s'assurer que ce soit de sa faute à elle si les partis ne sont pas reconnus. Je te dirais même qu'il va falloir trouver une façon de reconnaître ou d'accepter une certaine présence à l'Assemblée du Parti conservateur du Québec. Parce que les débats qui ne se feront pas à l'Assemblée vont se faire à l'extérieur de l'Assemblée. Et ce n'est pas dans l'intérêt des partis politiques que ça se fasse à l'extérieur de l'Assemblée. Donc, il faut être capable d'améliorer notre démocratie. Puis, c'est pas une question seulement de révision de mode de scrutin, c'est surtout une question d'attitude par rapport à la collaboration parlementaire. Ça n'empêche pas qu'il y a un gouvernement, il y a un parti qui décide, mais il reste que les Québécois sont en droit de s'attendre à ce que lorsque on est au Parlement et lorsqu'on travaille sur des dossiers parlementaires, les élus collaborent. Parce que au Québec, ça a 125 petites élections locales qui décident du gouvernement, mais ces élections-là sont très légitimes et tous les députés qui sont à Québec ont un rôle à jouer. Donc, il y a un message à passer. Je pense que Mme Anglade va accepter la reconnaissance des autres partis. Je pense que ce serait très mal, très mauvais de sa part de le refuser. Mais on ne sait jamais. Tu sais, en politique, des fois, les gens ont des raisons auxquelles on n'a pas pensé. Puis comme je te dis, la question du budget de l'opposition officielle, c'est quand même quelque chose qui est important parce que c'est dur de jouer ton rôle si tu es short staff, si tu as une petite équipe. C'est sûr que pour M. Legault, plus l'opposition sera divisée, plus ce sera simple de gérer des périodes de questions qui peuvent devenir difficiles. C'est une joute, il ne faut pas l'oublier, Raymond. Hein. C'est un jeu parlementaire, c'est pas pour rien qu'on appelle ça. Alors, on verra comment les élus déterminent les règles du jeu.
Alors, il faut souligner qu'il y a un député élu du Parti québécois qui fait le tour des médias pour demander à Dominique Anglade d'assouplir sa position. Et il est rentré avec un score assez considérable. Et comme ancien député et comme ancien chef du Parti québécois à l'Assemblée nationale également.
C'est exactement ça. Et tu sais, Pascal Bérubé est l'élu québécois des 125 qui a obtenu la plus haute majorité dans cette élection-ci. Pascal Bérubé, à Matane, est le seul qui peut dire « Je gagne mes élections parce que je suis plus fort que mon parti dans mon comté. » C'est assez impressionnant. Et oui, bien entendu, il a la légitimité de par ce résultat de passer un message à Mme Anglade. En même temps, ils saisissent les occasions. Et c'est là où j'ai un petit peu de difficulté avec le ton et la réponse de Mme Anglade sur cette question-là. Parce que de dire « je négocierai pas sur la place publique », c'est tout à fait vrai, mais il faudrait peut-être ajouter à la phrase « j'adhère au principe de reconnaissance, cependant, vous me permettrez de garder en privé les négociations sur la façon de faire ». Ça se dit comme ça. En ce moment, elle dit juste la deuxième partie, puis ça donne l'impression d'eux, ça permet aux gens de faire, de traduire ça. Et c'est là où la communication est essentielle, hein, parce que ce que tu dis a une valeur, ce que tu ne dis pas est interprété. Et ce sera là où les chefs doivent tous s'améliorer, parce que dans cette campagne, je trouve qu'on n'a pas été nécessairement... Moi, j'ai pas été impressionné par les capacités de communicateur de nos élus, ne serait-ce qu'en termes de clarté. Je sais pas toi, Raymond, mais moi, j'ai de la difficulté à me souvenir des grandes idées de cette campagne, des grands projets de cette campagne, de la vision de chacun des partis. Et si des gens comme toi et moi qui écoutent ça tous les jours ne retiennent pas nécessairement une majorité du discours, imagine les gens qui ne suivent pas ça, qui sont dans leur quotidien occupés, qui écoutent ça à la radio d'une oreille de temps en temps. Il va falloir qu'on améliore la capacité de vulgariser notre message du côté des politiciens, et c'est un bon exemple ce qu'on voit dans les derniers jours.
Alors, il y a deux petits sujets qu'on va terminer avant de terminer. C'est la sortie de Mme Régine Laurent à l'endroit du premier ministre François Legault, qu'elle a reproché, je l'ai vu à plusieurs reprises, avec une longue lettre à LCN cette semaine. Et elle a demandé au premier ministre de se corriger, hein, de prendre conscience de ses déclarations pendant les élections.
Oui, tout à fait. Puis Régine Laurent a la notoriété, la crédibilité et je pense même l'affection du parti au pouvoir pour être capable de le faire. Vous savez, tu sais Raymond, j'écoutais le discours du premier ministre après l'élection. Et je pensais à quelque chose, parce que tu en as connu plusieurs. Il y a deux types de chefs en politique. Il y a ceux qui sont à leur meilleur en campagne, et des fois quand ils gouvernent, on se demande où est passé l'homme de la campagne. C'était le cas de Jean Chrétien des fois, c'était le cas de Jean Charest, évidemment. Et ça a été le cas de plusieurs autres. Et il y a des gens où est-ce que c'est le contraire? Quand ils gouvernent, ils ont le bon ton. Et quand ils rentrent en campagne, on se demande où était cet homme-là. Moi, j'ai eu ce feeling-là avec François Legault parce que le soir de l'élection et le lendemain, j'ai senti un retour d'un ton sur l'immigration qui me semble acceptable et me semble raisonnable. Cependant, pendant l'élection, Régine Laurent a raison. Il a dit, son parti a dit des choses qui sont inacceptables sur le sujet. Et pour voir comment ça va se faire, moi, je vais surveiller avec beaucoup d'attention qui sera le prochain ministre de l'immigration. Je me permets de te lancer un nom ici, Raymond. Yann Lafrenière est pour moi le genre de candidat que tu veux à ce poste-là. Pourquoi? Parce que Yann Lafrenière est reconnu pour sa capacité de communiquer avec des publics particuliers comme ceux des communautés autochtones. Il l'a fait de très belle façon. Je pense que c'est quelqu'un qui a le bon ton.
Alors, et c'est un ancien et policier qui était toujours très bon en communication et quand il était à la police de Montréal.
Très bon communicateur. C'est le responsable des médias de la police de Montréal, mais aussi très, très aimé et très apprécié par les Montréalais en général. Et il est proche de plusieurs communautés. Je l'ai vu à plusieurs événements, dans différentes communautés culturelles aussi. Donc, c'est pour moi le genre de personne. Parce que tu sais, là, la question est simple. Est-ce que François Legault et l'immigration, c'est celui de la campagne électorale, qui, entre nous, Raymond, a littéralement dit des choses qui ne s'acceptent pas au Québec d'aujourd'hui et que nous ne pourrons pas accepter comme citoyens québécois issus de l'immigration? Ou on va avoir le François Legault d'après la campagne, qui veut faire un débat sur le nombre d'immigrants au Québec, mais sur la base de la pénurie de main-d'œuvre versus notre capacité à intégrer. Je pense qu'on doit être capable de faire ce débat-là dans une société mature. Mais il faut le faire sur des bases réelles, pas sur des perceptions et sur une volonté de promouvoir le nationalisme identitaire. Alors, le ministre qui doit choisir à l'immigration, pour moi, ce sera le message principal du genre de discussion qu'il veut avoir avec les Québécois. Et c'est important que des gens comme Régine Laurent sensibilisent, passent des messages, mettent le point sur la table, parce que elle fait partie de ces pionnières grâce à qui le Québec a avancé et qui n'a jamais caché ses origines pour être capable d'avancer au Québec. Alors, merci Régine pour ce beau-là.
Alors, et on va terminer avec la nouvelle première ministre de l'Alberta. Alors, je pense que son élection va probablement emmerder M. Poilievre à la Chambre des communes.
Ben, c'est sûr que ça va avoir une influence. Il faut le rappeler, pour les conservateurs, l'Alberta, c'est the motherland. C'est là où est-ce qu'ils sont le plus forts, c'est là où est-ce que, à toutes les élections, on l'entend souvent, hein, l'Alberta est celui qui est issu des gouvernements, l'Alberta est producteur de pétrole, l'Alberta est producteur de gaz, l'Alberta qui a de la misère à sortir son gaz et son pétrole, qui rend au fédéral vote conservateur parce qu'il a besoin d'un gouvernement qui va l'aider à sortir ses matières premières. Et c'est sûr que l'arrivée de Mme Smith, qui a un ton différent, qui en même temps est quand même dans la continuité du leadership de John Kenney, ben, va certainement amener un changement de ton. Il faut rappeler que Mme Smith a déjà été chef de parti, chef d'opposition officielle d'ailleurs, si je ne me trompe pas, en 2014, lorsqu'elle était chef du parti Wild Wolves, qui était né d'une espèce de scission du Parti conservateur, 2012 à 2019, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est en 2019, c'est Jason Kenney qui avait ramené les gens à la maison, d'une certaine façon, ces conservateurs. Et donc, Madame Smith sera revenue pour finalement devenir première ministre de l'Alberta. Elle est en poste maintenant, elle est donc devenue chef cette semaine. Et ce sera intéressant de voir, d'ailleurs, M. Legault a immédiatement offert sa collaboration. Vraiment, les femmes en politique amènent un ton différent, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse. Et c'est important, ça. C'est important, le changement de ton. Mais c'est une femme aussi qui a une très belle expérience en journalisme, une excellente expérience en éducation. C'est une femme qui se voit aussi dans une, peut-être, qui est dans une position un peu plus progressiste. Mais en même temps, comme je te disais, elle était ministre sous le gouvernement de Jason Kenney. Je ne pense pas qu'on s'éloigne énormément de ce qu'on a vu pendant les dernières années. Maintenant, pour Pierre Poilievre devra faire attention à une chose. On a vu cette semaine des vidéos circuler avec des hashtags misogynes. Pierre Poilievre a passé la dernière année et demie à flirter avec la droite totalitaire, avec, disons, l'extrême droite, ou du moins avec une droite un peu religieuse et identitaire. Et il faudra faire attention de son côté parce que je ne pense pas que tu puisses gagner des élections au Canada en étant trop de ce côté-là.
Mais alors, il a démenti quand même l'information qui est sortie sur lui à l'effet qu'il était misogyne. Et même le premier ministre l'a attaqué.
Oui, mais c'est pas une question d'être misogyne. Moi qui est misogyne ou pas, c'est pour ça que j'attaque. Moi, ce que j'attaque, c'est qu'il y a dans son équipe des gens qui font la promotion des vidéos de Pierre Poilievre auprès d'une clientèle qui est reconnue pour être misogyne. Parce que, en le fond, rapidement, je te l'explique, Raymond, c'est que derrière la vidéo, pour faire la promotion des vidéos sur YouTube, on met des mots-clés. Et les mots-clés utilisés, c'est une espèce d'indication à YouTube des gens que tu veux qu'ils ciblent. Et dans ces mots-clés, c'est là qu'on retrouvait ce groupe-là, misogyne, je ne me souviens plus du nom, je m'en excuse. Donc, c'est là où, comme je dis, il y a une tendance de M. Poilievre à flirter avec une droite différente de celle de la majorité des Canadiens. Et je ne pense pas que ce soit bon pour lui. Donc, oui, l'élection de Mme Smith peut-être le déranger un peu, mais en même temps, se rapprocher de Danielle Smith sera certainement intéressant pour elle, pour M. Poilievre. Et pour Mme Schmidt, parce que Mme Schmidt, également, elle a ce rôle de jouer un rôle d'influence auprès du Parti progressiste conservateur du Canada, parce qu'on sait que les conservateurs ont un terrain très fertile en Alberta, mais ce terrain est fertile parce que les positions du parti sont en faveur de l'Alberta et de la vision albertaine, qui est une vision très conservatrice, une vision d'une province qui paye les redevances au fédéral qui payent la péréquation, excusez-moi, et disons que l'un sert l'autre. Donc, ils ont une obligation de s'entendre, Danielle Smith et Pierre Poilievre, si les deux veulent être capables de répondre aux intérêts l'un de l'autre.
C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous sur les zones de sécurité, Victor Henriquez. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une fin de semaine de l'Action de grâce en plus.
Et je souhaite justement à toi, Raymond, et à tous les auditeurs une très belle action de grâce, une bonne fin de semaine et merci de m'inviter régulièrement. C'est toujours un plaisir de te parler.
Et salut à ton ami Harold, mon cher.
On le salue, justement. Je lui disais que j'étais avec toi ce matin, donc peut-être qu'il nous écoute en direct de Québec.
Alors, on le salue. Salut, mon cher ami. Merci, à la prochaine.
À bientôt, Raymond. Merci.
À bientôt.
Bye.
Alors, c'était Victor Henriquez. Que vous avez l'habitude d'entendre à presque à chaque semaine. Hein? On a toujours quelque chose à dire. Alors, je vais faire une petite pause avec Tikenja et puis on va retourner tout de suite après. D'autres invités sont à venir. Alors, je salue Guy Laurent et Frida Laurent depuis West Palm Beach. Alors, félicitations pour votre vente signature de ton livre.
La société est divisée, même maman.
pays va vraiment mal et il est sur le point d'être occupé pour une autre fois par les forces qui n'ont pas aimé en fait la libération de ce peuple. Hein? On a une histoire. Alors, c'est le temps de vous faire écouter en fait un petit causé citoyen avec notre collaboratrice, membre de l'équipe, Madame Roxane Ledan.
Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Samedi Midi Inter sur CKUT. Nous dit tout le monde l'honneur pour yon l'autre petit causé citoyen, moi-même, Roxane Ledan, Taï Noël, pote pour nous aujourd'hui encore. Nous allons parler de témoignages tirés de à propos de l'histoire d'Haïti. Saviez-vous que de Jean Ledan fils? Témoignage. Jules Blanchet, au pays de la couleur et de l'orgueil, en sous-titre, introduisait le livre Haïti par Mercer Cook dans le journal Panorama numéro 4, juin 1955. Dans la lutte pour la liberté, la couleur de la peau ne nuit ni à l'honneur ni à la bravoure, tant à Savannah et de même quand le marron défiait le français, l'espagnol et l'anglais dans la guerre de la révolution haïtienne 1791-1804. Jules Blanchet poursuivait. L'haïtien avait gagné la bataille de la vie et de l'homme. Il avait réalisé en lui la pleine conscience de la dignité de l'homme et que le pays avait joué sa partition dans l'histoire du monde. Bien qu'il ne fût pas invité à Panama en 1826 et que les États-Unis attendissent plus de 60 ans avant de reconnaître son indépendance. Toujours M. Blanchet, et je tiens à interpréter ce témoignage, le livre Haïti par Mercer Cook, comme une projection vers l'avenir, car le message exprès que notre pays a lancé au monde dans le XVIIIe siècle, si attachant, si passionnant et si identique à l'idée de progrès, demeure dans le temps et l'espace. Car malgré les tâtonnements, malgré les vicissitudes, malgré la conspiration contre l'homme haïtien, nos traditions qui se situent dans la vocation de la liberté et de la fraternité frémissent d'un élan interne qui se recharge à partir de la conquête du révolté par lui-même. Depuis, nous avons vécu. L'indifférence et l'hostilité ne nous ont pas désarmés. Elles ne nous désarmeront pas. Elles ne peuvent pas nous désarmer. Elles font écran. Nous avons vécu durement, difficilement. Nous avions enregistré des échecs. Nos tentatives ont parfois avorté. Nos efforts ont été souvent vains, mais qu'importe. Il a fallu à la monarchie absolue 5 siècles et même davantage pour s'épanouir. Il a fallu à l'économie moderne d'échanges complexes, fondée sur le crédit et sur la monnaie, plus de 2 siècles pour parvenir à son degré actuel d'industrialisation, et elle est encore très vulnérable. Il a fallu à la démocratie libérale 2 siècles pour asseoir le régime parlementaire et elle ne s'est pas encore libérée des servitudes et des contradictions qui naissent de la dynamique du système. Il a fallu à la pensée humaniste occidentale plus de 5 siècles pour atteindre à son développement intégral et jusqu'ici, elle ne s'est pas encore repensée totalement. Telle est la vérité scientifique. Mais elle ne vaut pas pour notre pays, petit par ses dimensions. Elle ne vaut pas pour un peuple de couleur. Et parce que les Haïtiens sont un peuple de couleur, ils ne doivent compter que sur eux-mêmes pour réaliser ce que les autres réalisent partout ailleurs grâce à l'entraide spontanée. C'était Témoignage, présenté pour vous par Roxane Ledan, Taï Noël. À la semaine prochaine.
Alors, et merci Roxane, à la semaine prochaine. N'a pas le fond de pause, n'a pas tourné avec d'autres informations. Vous êtes sur la bonne longueur d'onde, 90.3 FM. N'a pas salué les gens de Jacmel, également de Connecticut qui sont branchés et sur le 90.3 FM et n'ont pas oublié. Et gagnent émission ça cap en reprise tous les mardis soirs sur Radio Haïtienne de Montréal de Tantan.
Mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Avant, on ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans. Mais aujourd'hui, ils ont tout gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même maman au marché sont divisés. La xénophobie appelle l'ivoirité. Ils ont créé les houlets et les olés. Mais mon pays va mal.
Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal.
Alors, Tikenja, et non pas mon encore. Alors, faut qu'on dise que ces deux musiques. Que n'a pas si j'en fatigué avec elle parce que notre pays, notre cher pays, la première République noire libre qui a pris son indépendance, qui a défié ses agresseurs, et Michel-Ange Basile, l'union fait la force, mais qu'on y a, nous, et que l'union fait la force. Alors, c'est avec plaisir que n'a recevoir une connaissance depuis quelques années. Monsieur Mathias Pierre, ingénieur, Napédio, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio de l'Université McGill à Montréal.
Et bonjour et Raymond, et certainement, m'a profité pour me saluer toutes amies et toutes camarades et toutes auditeurs, auditrices. Captain de nous et Montréal et à travers Haïti et à travers le monde. Son plaisir pour moi, pour moi, avec au matin.
Alors, il faut que moi, dis amis qui écoutent nous, et le but de cette entrevue, c'est l'homme d'attendre un document côté que le nom de Mathias Pierre en est sorti. J'ai trouvé que le document était quand même et assez intéressant. Avec plusieurs personnalités bien connues et du monde politique, et me dit faut me font dépassement de soi. Alors et avant que nous arrivions sur le document ça, et Mathias t'a remis ou dis-nous qui sont pensés du gouvernement tous les ministres qui ont signé pour une nouvelle ième occupation de la première République noire libre.
Et c'est avec un peu de tristesse et que m'a intervenu sous question ça, parce que d'abord m'a rappelé et tweet que m'était fait c'était le 7 octobre et le m'était apprendre que ancienne ambassadrice américaine Pamela White te dit dans le congrès américain que dans le niveau que nous arrivons là en Haïti, il faut les bottes. Les bottes. Et me dit dans tweet ça, malgré les violences, c'est la descente aux enfers et auquel confronte Haïti, aucune occupation étrangère ne viendra résoudre le problème. Beaucoup souhaitent des bottes. Moi, je dis non. C'est aux Haïtiens d'affronter leurs démons, prendre conscience et adresser leurs différends historiques. Et quoi que pays et non encore fou aujourd'hui, côté que Haïtiens, ils viennent pour affronter des démons, cap suivi. Et pour comprendre que les solutions faciles, on peut regarder, il y en a eu pas mal de ces solutions faciles. Et est-ce que ça a donné des résultats? Il faut te rappeler l'historique, vraiment. L'occupation américaine en 1915, c'est la première fois après différentes tentatives, différentes humiliations, que une nation étrangère blanche, majoritairement, t'es décidé fouler sol Terre des Salines. C'est en 1915, après que yo créé tout un environnement pour mener à cette occupation. Et des crimes crapuleux, 1912, yo sauté par les nationales avec ses sénatus Lecomte. Et de 1912, on a eu une querelle du président et presque sept jusqu'à Villebrun-Guillaume Sam, en passant par Tancred Auguste qui a été empoisonné et d'autres qui finissent en prison, qui pourraient fusiller par Villebrun-Guillaume Sam, là, il a fusillé 169 prisonniers politiques, dont un ancien président, Salnav, et qui pourrait le mener, le monsieur prend route, ambassade de France, il pourrait le prendre, il pourrait le racheter, monsieur, un petit morceau. Il faut comprendre très bien qui s'était gagné dans la bataille, ça. C'était que les Américains ont besoin de contrôler la douane et les finances d'Haïti à l'époque. Et pour contrôler les douanes et finances, il faut que tu aies contrôle du gouvernement. Et différents gouvernements avant eux, tu as refusé signer PACSA. Il faut que tu aies déstabilisé le gouvernement, déstabilisé le pays pour faire occupation. Mais occupation, ça n'a pas entré dans le cadre d'occupation spécifique d'Haïti. Il était dans le cadre global de Monroe, de doctrine de Monroe. Côté américain, on t'a occupé différents pays, mais pays d'Haïti, on t'a peur entrer là-dedans. On t'a entré dans plusieurs autres pays, mais on t'a peur. Mais on va finalement pas créer route ça. On va voir que l'assassinat a fait aux alentours du 27 juillet 1915 autour de midi. Le 28 juillet, à 4 heures après-midi, le 28, les bottes étaient déjà sur le sol d'Haïti. Mais pour nous comprendre bien, dynamique ça, pour que l'occupation ait été pré-planifiée. À l'époque, pour sortir de Miami pour arriver à Haïti, il a fait 3 jours. Pour sortir de New York pour arriver à Haïti, il a fait 7 jours. Donc, capable de comprendre, si en 24 heures, les gens ont débarqué dans le pays, ça veut dire que déjà, l'occupation était préparée. Et il y a des groupes bien connus d'Haïtiens, dont les Brun, qui ont signé pour l'occupation américaine. Et qu'est-ce que ça a donné? L'occupation américaine a permis de 1915 à 1934 de créer un État décentralisé, de construire une armée qui est centralisée, etc. Mais très rapidement, de 1934 à 1946, côté américain qui est en 1934, 1946, où il y a la révolution de 1946, et pays a retourné dans l'instabilité, une instabilité qui prend le même nom de 1946 à 1957, on querelle de président, après Estimé et Magloire, et la prise du pouvoir par Duvalier en 1957.
Et ensuite par Jean-Bertrand Aristide, parce qu'on est obligé à modifier, parce que l'histoire est quand même longue, mais importante, étant donné qu'il y a autre chose à discuter avec toi. Mais je pense que c'est quand même très intéressant. Et je vais passer à un texte publié dans le Novelliste, et où vous avez apporté quelques petites modifications, et Mathias Pierre.
Bon, c'est clair. Alors, je voulais dire ça, faire une introduction à ça tout à l'heure, c'est pour vous expliquer que les occupations, les débarquements, c'est des solutions faciles qui aident les élites, qui aident les petits groupes monde, dans le sens où les blancs arrivés, ils besoin de cahier bleu, ils besoin de local, ils besoin d'hôtel, et des groupes nègres qui font comme. Ils bon, ont une apparence de stabilisation. Mais la stabilisation réelle d'Haïti ne viendra pas de là. Et c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, nous réfléchissons. Nous sommes un groupe purement d'intellectuels, parmi nous, au moins quatre anciens ministres, côté que nous travaillons sous la question du crise dimensionnelle qu'on a dans le pays d'Haïti aujourd'hui et comment adresser-le qui vous permettre d'arriver à une solution durable. Et qui, c'est le seul moyen pour que Haïti sorte dans sa culture. Et si nous ne pas rentrer dans l'approche de solution durable, Haïti n'a pas sorti dans sa vie.
Alors, ce qui est important de souligner, je peux lire une petite partie, des anciens collaborateurs du président Jovenel Moïse formulent une proposition de sortie de crise pour le publier. Il y a une grande différence. Nous tenons à souligner l'esprit non partisan et les motivations fondamentales de notre démarche. Les signataires proviennent de tous les horizons. Certains pour avoir collaboré à différents niveaux avec divers présidents au gouvernement au cours des 25 dernières années, de M. Jean-Bertrand Aristide, M. Jovenel Moïse, en passant par René Préval et Michel Martelly, d'autres pour avoir travaillé dans d'autres secteurs de la vie publique. Et si on continue à plusieurs égards, je saute quand même un paragraphe. Nous croyons que le titre choisi peut occulter l'objectif primordial de notre démarche et celui de présenter publiquement dans ce climat d'extrême polarisation de la société un certain nombre de propositions sans langue de bois, afin d'enrichir les débats et d'offrir quelques pistes à ceux et celles qui partagent vraiment l'ambition de faire retrouver à notre pays le sens de sa mission et sa dignité en toute humilité. C'est quand même des gens d'expérience qui ont présenté cette proposition, et Mathias.
Oh, certainement oui. Et dans ce sens, ça... pour gagner différents intellectuels. Par exemple, si on prend quelqu'un comme Pierre-Raymond Dumas, qui est connu pour ses rubriques dans le Novelliste, La Transition qui n'en finit pas, et a collaboré avec les pouvoirs en Haïti à différents niveaux, Jean-Bertrand Aristide, Martelly ou autres, et qu'il s'agit de Wilson Lalo ou de l'agronome Thomas et ou encore professeur Luino, et pour ne citer que cela. Et c'est quand même un groupe de citoyens qui ont pris une certaine responsabilité de transcender leurs différences, de transcender la partisanerie pour adresser un problème de fond. qui est comment mettre les Haïtiens ensemble pour arriver à une solution durable au problème d'Haïti d'aujourd'hui. Et dans ce sens, si vous regardez Charpente document, regardez premièrement la question du dialogue, du dialogue national, qui est le grand débat aujourd'hui. Et tout le monde dit qu'il faut un accord politique. Mais un accord politique, c'est le fruit d'un dialogue. Il faut que les acteurs aient commencé à chiter ensemble. Et dans ce sens, on voit qu'il y a deux approches qui prônent en Haïti. Il y a une première qui dit que, écoutez, il faut faire un chita là, nous rangeons le gouvernement et puis nous courons, nous faisons élection et nous allons de l'avant. Il y a une approche qui dit non, faut nous chita pour nous mettre l'État à chita en place. Il faut nous faire 2 ans, 3 ans de transition. Et à partir de là, on a regardé comment on a fait élection pour nous rentrer et mettre le système là en place. Sauf que, problématique qu'on a dans ça, c'est que nous pratiquement presque essayé tout déjà et li pa bay résultat parce que à chaque fois nous retourner encore rentrer dans cycle violence parce que nous pas jamais arrivé accompli une plus grande mission que l'État gagne faut que si son l'État qui fort qui légitime pour que lui-même gagne monopole violence et que nous tous citoyens nous faire confiance. Parce que il y en a bagaille que nous pas arrivé faire. On a parlé de dialogue. C'est comment pour nous reconnaître parce que en dialoguer c'est ça, légitimité l'autre là la différence ni. Parce que si pour nous dialoguer, faut nous d'accord que nous tous chaque grain dans nous, il y a des opinions différentes sur des sujets différents. Mais c'est comment pour me reconnaître en dans différenciaux. Quels sont les points communs que nous d'accord et ce point commun doit être Haïti et de cet Haïti qui doit être au-dessus de nous prioriser les intérêts collectifs aux dépens des intérêts individuels mais des intérêts collectifs au-dessus et mettez-nous en bas au lieu que nous mettez tête en haut et intérêts collectifs à savoir Haïti en bas et à partir de là pour avancer et dans ce sens ça document préconisé, c'est-à-dire la signature d'un ensemble de pactes et que nous sommes capables d'aborder un petit peu dans le point qu'a venir.
Bon, alors, faut que moi, je n'ai pas gagné un pile de temps parce que nous gagnons 3h30 et puis l'émission est toujours surchargée. Les points principaux, et n'a modifié, pas aller trop long, et que vous avez souligné, c'est qui s'accueillait.
Bon. D'abord, nous parler de la nécessité de la signature de ce que nous appelons un pacte de vigilance et de sauvegarde de la nation haïtienne. Parce que ça nous réalise, c'est que...
Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant? Est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant?
Au contraire.
Avec la position du gouvernement de facto qui demande l'occupation de ce pays.
Alors, il faut que nous fassions une différence entre... l'événementiel, ce qui se passe aujourd'hui...
Et la durabilité.
Et le long terme. Et long terme et durabilité. Nous-mêmes, nous pas inscrits dans l'événementiel aujourd'hui. Et nous inscrits beaucoup plus dans la durabilité. Et nous inscrits dans comment pour nous joindre une solution à la haïtienne et qui ça pour nous fait. Et pour nous arriver dans pacte ça nous dit que gagnons ensemble de parce que le pacte de vigilance et de sauvegarde de la nation haïtienne pour nous constitue en réalité un ensemble d'engagements que les différentes composantes de la société prennent les uns envers les autres pour permettre l'avènement d'une nouvelle ère. Et en dedans pour ça, nous gagnons plusieurs composantes et je vais aller rapide pour vous. Première composante, là, c'est le pacte de la sauvegarde de la nation haïtienne. Qui s'allie, c'est côté où un pays qui est totalement divisé, chaque groupe, chaque chef qui a des groupes qui a marché derrière, c'est identifier tout ancien président, tout ancien premier ministre qui était dans le pays, il y a chaque partisan, yo, comment pour yo chita ensemble, pour nous permettre de prendre des engagements au nom de la République qui pour permettre que nous calmer les jeux et les esprits, calmer nos partisans, qui pour permettre nous avancer de l'avant. Deuxième composante là, c'est le pacte de civilité. Ça, lui-même, c'est les potentiels candidats aux élections présidentielles et autres qui pour signer, pour yo engager yo dans la non-violence dans les élections à venir. Et yo reconnaître que bon compétition pour le fait, mais compétition ça électorale, ça faut le fait de manière équitable. Mais faut nous pas rentrer dans goumen, et si on gagne, faut nous, d'accord que n'a quitté le fait mandat pour aller de l'avant. Troisième composante là, c'est un pacte de responsabilité sociale des entreprises et des entrepreneurs. Parce que je veux dire, ce n'est pas seulement acteurs politiques qui ont responsabilité dans ce qu'on fait là. Les hommes d'affaires du secteur économique ont une certaine responsabilité. Il faut qu'ils prennent des engagements